franceinter.fr. Bonjour Yves Decamp, rebonjour.
Bonjour. 47 millions d'électeurs aux urnes en métropole. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin pour le premier tour de la présidentielle. À midi, la participation était de 28,5%, soit très légèrement supérieure à celle de 2012. La plupart des candidats ont voté ce matin dans leur fief. Le président de la République, lui, était à Tulle. Toutes les mesures ont été prises, a dit François Hollande, pour permettre aux Français d'assurer ce droit fondamental de choisir leur avenir. Dans l'actualité de ce dimanche également, ils avaient été arrêtés mardi. Les deux suspects de Marseille ont été présentés au juge antiterroriste après 5 jours de garde à vue. Ils devraient être mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Et puis en sport, 2 matchs de football importants pour les championnats de France et d'Espagne. Lyon-Monaco ce soir en Ligue 1. Le Classico Real Madrid-Barcelone en Liga. Et puis du cyclisme également, la doyenne des classiques en ce moment même, Liège-Bastogne-Liège.
France Inter.
66 546 bureaux de vote en métropole qui fermeront pour la plupart à 19h, 20h dans les grandes agglomérations. 47 millions d'électeurs choisissent aujourd'hui les deux finalistes du second tour parmi les 11 candidats de cette présidentielle. Un premier tour à l'issue totalement incertaine. Hier et dans la nuit ont voté les Outre-mer et les Français de l'étranger. Et depuis 8h ce matin, c'est dans l'Hexagone que ça se passe, sans problème signalé pour l'instant, avec une participation très légèrement supérieure à celle de 2012, 28,5%. Valérie Cantier, vous êtes au ministère de l'Intérieur.
Oui Yves, on peut même dire que le taux de participation est identique à celui de la dernière présidentielle, puisque le taux de participation donc aujourd'hui est de 28,54% à midi en métropole. Hein. Donc c'est quasiment le même que lors de l'élection de 2012. Alors 28,54% aujourd'hui, c'est moins qu'au premier tour de 2007, mais c'est nettement au-dessus des premiers tours de 2002 et de 95, et surtout effectivement de 2002, car c'était l'année où l'on avait le moins voté. Le département qui a le plus voté à midi aujourd'hui est le Gers, avec 38,46%, qui a beaucoup plus voté qu'en 2012 d'ailleurs. Celui qui a le moins voté, c'est le Val-d'Oise, avec 20,65%, mais c'est tout de même 2 points de plus qu'en 2012. Paris, où les bureaux ferment à 20h et où l'on vote en général assez tard dans la journée, est à 24,24% de taux de participation, soit près de 3 points de plus qu'en 2012. Je vous signale également que dans les Bouches-du-Rhône, où pourtant de nombreux bureaux de vote ferment à 20h, à Marseille notamment, le taux de participation à la mi-journée est très élevé, avec 35,10%, suivi des Alpes-Maritimes avec 34,82% de participation. Dans le Rhône, le département de la ville de Lyon, troisième ville de France, le taux est égal à la moyenne nationale de cette matinée, soit 28%. Je vous rappelle donc le taux de participation à midi aujourd'hui en métropole, donc au plan national, 28,54%, quasiment identique à 2012.
Valérie Cantier au ministère de l'Intérieur, en rappelant que la participation est traditionnellement forte pour une présidentielle. C'était près de 80% de participation il y a 5 ans. En queue de peloton, vous l'avez dit Valérie, le Val-d'Oise, mais aussi le Pas-de-Calais et le Val-de-Marne. Il y a tout l'après-midi pour se rattraper. En Outre-mer, les participations à 17h étaient partout en baisse à 17h par rapport à 2012, notamment en Guyane, 37% contre 46% il y a 5 ans. Mais en Guadeloupe aussi, 7 à 8 points de moins pour la participation. En revanche, hier soir à Montréal, c'était au contraire la grande foule pour voter, jusqu'à 3 heures d'attente, au point que certains électeurs ont perdu patience et fait demi-tour. À Montréal, plus de 57 000 Français sont inscrits sur les listes électorales, 14 000 de plus qu'il y a 5 ans. Dès 8 heures ce matin donc, en métropole, certains bureaux de vote étaient déjà bien remplis. Ce fut le cas notamment à Schiltigheim, en Alsace, où dès l'ouverture, une petite dizaine de personnes étaient là, Olivia Cohen.
Sœur Marie-Louise est arrivée la première. Elle a traversé la cour de l'école en trombe, malgré sa béquille.
Pourquoi vous venez voter si tôt, madame ?
Ah ben, on va toujours à 8h, nous. Ah mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous devons travailler après.
Derrière elle, Denis, casquette sur la tête et la pipe déjà au bec. Il doit ensuite filer à la campagne, mais pas pour se mettre au vert.
Non, parce que j'ai du travail qui m'attend là-bas.
Quoi ?
De la maçonnerie.
Et vous êtes content là de venir accomplir votre devoir citoyen ? Comment vous vous sentez ?
Je suis content, mais je sais pour qui je vais voter.
Ben, vous avez de la chance parce que ils sont pas nombreux ces gens-là en France en ce moment.
Ben, je fais partie de ceux qui savent. Bonne journée.
Le seul qui est un peu ému ici, ce n'est pas un électeur, mais l'un des 12 bénévoles à tenir le bureau de vote. Il s'appelle Roland et c'est sa première fois.
Je trouvais intéressant de le faire, de découvrir un petit peu l'envers du décor.
La journée va être longue, mais ça ne fait pas peur à Roland avec ses collègues. Ils auront de quoi s'occuper et puis les plaisanteries vont fuser.
Alors oui, le stock de blagues sûrement, le café aussi, les sandwichs. Donc la journée effectivement va être longue puisque nous sommes là dès 7h30 et jusqu'à ce que tout le dépouillement soit terminé.
Un dépouillement qui s'annonce sportif. Le bureau de vote ferme à 19h. Les premières estimations devraient tomber à partir de 20h. Achille Tikaim, Olivia Cohen, France Bleu Alsace pour France Inter.
Et pas sûr d'ailleurs que les deux finalistes soient connus dès 20h si les scores sont très serrés, sachant qu'aucun bureau de vote ne ferme plus à 18h, ce qui fait moins de temps aux instituts de sondage pour établir les premières estimations. La plupart des 11 candidats ont voté ce matin dans leur commune, comme le président sortant qui lui s'est rendu à Tulle pour participer à l'élection de son successeur, François Hollande qui a mis l'accent sur la sécurité de ses opérations de vote dans le contexte que l'on sait.
Toutes les mesures ont été prises et je remercie aussi les communes qui se sont associées à cette nécessité d'être vigilants et d'assurer aux Français toutes les conditions leur permettant d'exercer ce droit fondamental qui est celui de choisir leur avenir. Donc nous avons fait en sorte, avec le gouvernement, le Premier ministre en tête, mais le ministère de l'Intérieur, mais aussi, je l'ai dit, avec toutes les collectivités locales, de donner ces garanties-là. Nous sommes dans une période, mais cette période-là n'est ni récente, ni hélas achevée, où nous devons mobiliser beaucoup de moyens, et en particulier pour les deux jours de vote, pour la présidentielle, et puis ensuite pour les législatives. Et pour les Français, je pense que c'est le meilleur message qu'ils peuvent adresser, c'est montrer que la démocratie est plus forte que tout.
François Hollande au micro de Philippe Graziani. On l'a dit, plus de 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la surveillance des bureaux de vote, des équipes mobiles. Le plus souvent, on se souvient que le terrorisme s'est réinvité dans la campagne, avec encore l'assassinat d'un policier sur les Champs-Élysées jeudi. C'est dans ce contexte, sans la moindre crainte, mais en y pensant quand même, que les électeurs se sont déplacés ce matin, comme ici dans le 17e arrondissement de Paris, des témoignages recueillis par Béatrice Duquet.
Hier soir, j'étais sur les Champs-Élysées, je vis ma vie normalement. Je travaille dans un aéroport, donc depuis 1995, les militaires font partie de ma vie quotidienne, donc garder cette liberté d'aller et de venir, même s'il y a juste un contrôle visuel, il fallait surtout pas rajouter une pression supplémentaire.
Je m'attendais qu'il y ait quand même plus de contrôle. J'ai trouvé un petit peu léger.
Un peu inquiet en matière de sécurité,
Non, mais je suis passé, on m'a même pas regardé. Je trouvais ça un peu bizarre. Madame, oui, on va
regarder. Est-ce que je me sens sécuritairement ici? Je vais dire oui. Après, est-ce qu'il y a une appréhension un peu latente comme ça au fond de son esprit que potentiellement aujourd'hui peut être pris comme une opportunité par certaines personnes malveillantes, oui.
Bah enfin, on vit des temps un peu difficiles, donc c'est d'autant plus important de venir voter pour ça, en fait, je pense. Il faut renforcer la démocratie, et c'est très important, quoi. Je travaille dans un hôpital, je vois aussi, maintenant, voilà, on est habitué à être contrôlé à l'entrée, à la sortie, avoir beaucoup de forces de l'ordre, bah c'est comme ça. C'est pris de la sauvegarde de notre liberté aussi.
Un incident a signalé ce matin à Besançon, un véhicule déclaré volé, abandonné moteur tournant devant un bureau de vote qui a été évacué. Une carabine a été retrouvée dans la voiture, simple fait divers, sans aucun lien avec l'élection. En bref, l'attentat déjoué de Marseille, les deux suspects arrêtés mardi, ont été présentés à un juge antiterroriste ce matin. Ils devraient être mis en examen pour avoir projeté un attentat. Une information judiciaire devrait être ouverte, notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Tous les deux sont restés silencieux devant les enquêteurs, si ce n'est pour contester un projet précis d'action violente. En Guyane, le dernier barrage qui bloquait encore le centre spatial de Kourou a été levé. L'activité reprendra dès demain matin. Les trois lancements reportés depuis un mois seront reprogrammés. Dans l'actualité également, un petit air d'été, puisqu'il fait beau. Dans deux mois, ce sont les vacances et la plage pour beaucoup d'entre nous. La Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui fête son cinquantenaire, se prépare déjà à cette nouvelle saison. 1500 bénévoles seront comme chaque année répartis sur le littoral. Leur formation, notamment au secourisme, se termine par une semaine de stage sur la plage. Un stage très physique, comme ici près de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, Isabelle Dore.
Sur la plage, balayée par un fort mistral, 19 jeunes d'une vingtaine d'années, en majorité des garçons, vêtus de combinaisons orange et noire, se précipitent dans l'eau glacée au coup de sifflet du formateur. C'est la partie la plus difficile de leur stage, apprendre in situ à sauver des vies. Patrick Cuillère, le directeur du centre de formation.
Ça les valorise et ça leur apprend beaucoup de choses. Acquérir des diplômes, des compétences. Et ensuite, c'est d'être employé pendant l'été sur une cause honorable.
Tête dans l'eau, allez!
Là, ils sortent une victime de l'eau. Donc l'idée est de la porter le plus efficacement possible. Il faut également que la victime soit manipulée avec délicatesse. C'est un formateur qui joue effectivement le rôle de la victime.
Allez, on y va.
Là, vous arrivez d'un exercice avec le Zodiac.
C'est plutôt compliqué, surtout que la personne est lourde.
Quand une personne a un plus grand gabarit que soi-même, il faut vraiment puiser sur les ressources.
Vous n'avez pas peur de ne pas pouvoir sauver quelqu'un justement parce que vous n'êtes pas un gros gabarit?
C'est vrai, c'est un truc qui me fait assez peur, mais avec un stage comme ça, on nous apprend à justement pas avoir peur de ça en fait. On va tourner.
Là, c'est l'atelier pilotage. Donc en fait, il y a un équipier et un pilote qui s'en vont au large, récupèrent une victime, ils font des arrivées et des départs de plage. Faut être polyvalent, savoir tout faire, naviguer, sauver les gens, surveiller la plage et rendre service à tout le monde.
Sur la plage de la Couronne, près de Martigues, Isabelle Dor, France Inter.
En sport, en Ligue 1 de football, l'affiche ce soir, c'est Lyon-Monaco. Monaco sous la pression du PSG qui a pris la tête au classement. Mais les amateurs de foot suivront aussi le classico du championnat d'Espagne, Real Madrid-Barcelone. Un choc planétaire, 650 millions de téléspectateurs dans le monde. Un Real en pleine forme, toujours en course en Ligue des Champions. Et qui, en cas de victoire, s'assurerait le titre en Liga. Formidable bilan pour l'entraîneur Zidane.
C'est sur des petits détails qu'une équipe ou l'autre va faire la différence. On le sait, ce que je veux, c'est voir l'équipe faire un bon match. On doit entrer à fond dedans dès le début. Avec de l'intensité et du rythme, on peut déstabiliser n'importe quelle équipe. On sait à qui on doit faire face. C'est une très bonne équipe qui a démontré plein de choses tout au long de la saison et qui ne va pas ressentir une pression particulière en jouant au Bernabeu. Nous savons que nous devons faire un grand match. Ce qui s'est passé est derrière nous. Ce soir, c'est un nouveau match qui démarre avec 3 points en jeu et on verra quelle sera l'issue.
Voilà Zidane en espagnol au micro de Marie-Hélène Ballestero. En rugby, Clermont en quête d'une nouvelle finale de Coupe d'Europe. Les Auvergnats, 2 fois finalistes mais jamais vainqueurs, affrontent tout à l'heure en demi-finale à Lyon les Irlandais du Leinster. Hier, les Anglais des Saracens, champions en titre, ont battu Munster. En cyclisme, c'est la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, 103e édition, 258 km. L'Espagnol Valverde, 3 fois vainqueur, est en tête d'affiche. Les Français sont absents du palmarès depuis Bernard Hinault, il y a 37 ans. Le peloton est endeuillé par la mort hier de l'Italien Scarponi. Alors après près de 3 heures de course, qu'est-ce que ça donne, Fanny Lechevestrier?
Alors pour le moment, nous avons 8 hommes en tête, dont 3 Français, Stéphane Rossetto, Fabien Grolier et Anthony Perez. Ils comptent 12 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton, mais rien de définitif, hein, loin de là, avec encore 140 km à parcourir et surtout 9 difficultés à gravir. L'explication des favoris n'a donc pas commencé, mais c'est vrai qu'on a hâte de voir qui va pouvoir attaquer Alejandro Valverde, le grand favori de la course, déjà 3 fois vainqueur ici. Peut-être un Français, sait-on jamais. On pense notamment à Romain Bardet et Warren Barguil. Ils seront parmi les attractions de l'après-midi. Mais en attendant, l'image forte de la doyenne 2017, c'est ce moment d'émotion au départ avec 1 minute d'applaudissements pour saluer la mémoire de Michele Scarponi, l'Italien mort hier lors d'une sortie d'entraînement percutée par une camionnette. En tête de ce peloton au moment de l'hommage, son équipe Astana, casque à la main et larmes sur les joues pour quelques-uns. Mais les coureurs tenaient à être présents aujourd'hui pour rendre hommage à leurs coéquipiers. Pas sûr qu'ils aient tout de même la force de se battre pour la victoire finale.
Fanny Lechevestrier, en Fed Cup, la France se maintient dans l'élite. C'est du tennis, bien sûr. Les Françaises qui ont battu l'Espagne 3-0. Allez, c'est du sport, si on veut, mentalement intense. En tout cas, le champion du monde d'échecs, Anatoly Karpov, était hier à Belfort face à 16 adversaires en simultané. 16 jeunes sélectionnés parmi les concurrents du championnat de France d'échecs et qui n'ont pas vraiment fait le poids. En tout cas, pas encore. Voici la guitoune.
En costume bleu, le visage fermé, Anatoly Karpov passe d'une table à une autre, d'un échiquier à un autre.
Échec et mat.
Le champion du monde élimine ses adversaires un par un. Il leur accorde à chacun un sourire et une poignée de main.
Il est très fort, très talentueux.
Elisa, 13 ans, est l'une des premières à sortir du jeu.
Dans le club, il y a une photo de lui accrochée avec une dédicace. Donc à chaque fois en cours, je regarde sa photo J'aimerais bien être à sa place.
Le grand gagnant est Nicolas, 12 ans.
Il pouvait plus rien faire et moi je pouvais plus rien faire. Il a proposé la nuit, j'ai accepté. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Je me dis, ouais, bon, pour la simultanée, je vais peut-être pas y être dedans. Et là, oh, je suis dedans déjà, c'était une joie. Et en plus, faire nul contre lui, là, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, je suis très content. Et j'espère que je vais continuer comme ça.
Anatoly Karpov, lui, tient à saluer le niveau des jeunes joueurs. Il y a parmi eux des graines de champion, dit-il.
Bien sûr, j'ai vu des jeunes avec un bon niveau, assez talentueux. Il faut encore les soutenir, les accompagner. Mais ils sont entre de bonnes mains avec la Fédération française d'échecs.
Karpov qui remettra leur trophée au lauréat de ces championnats de France tout à l'heure.
Merci Yves Decamps, ce soir pour le 19h.